Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison des Héros anonymes. La première fois que j'ai entendu parler du premier organisme que nous recevons cette semaine, c'est par la douce musique des Berceuses pour Filou, un album acheté pour venir en aide au Centre Filou. Cet organisme, fondé il y a 19 ans, accueille des enfants handicapés pour quelques jours ou quelques semaines. Filou, c'est le petit nom de Philippe, le fils atteint de paralysie cérébrale sévère de Diane Chenvert, la fondatrice du Centre Filou et aujourd'hui directrice de la Fondation Filou, créée pour assurer le financement du centre. L'organisme est aujourd'hui dirigé par Sarah Kimpton, que nous recevons aujourd'hui au Héros anonymes. C'est aussi une belle histoire de transmission entre des femmes dévouées que nous entendrons aujourd'hui. En seconde partie, nous recevrons Ariane Magny, cofondatrice et intervenante de la Croisière des Alizés. Il y a quelques semaines, nous avions reçu la maison L'Éclaircie, qui offre aide et références pour les personnes atteintes de troubles alimentaires. Cet organisme est partenaire de cette initiative vraiment originale qu'est la Croisière des Alizés, des excursions en voilier sur le fleuve Saint-Laurent en contexte d'intervention par la nature et l'aventure. Être à la barre d'un voilier, c'est une belle métaphore pour apprendre à être à la barre de sa propre vie. C'est le combat qu'a mené Ariane Magny, pour lequel elle souhaite aider les jeunes filles et femmes aux prises avec les mêmes tourments qu'elle a elle-même traversés. Voilà le programme de cet épisode. On prend une courte pause et on accueille Sarah Kimpton. Pour notre premier entretien, nous recevons la présidente directrice générale du Centre Filou, Sarah Kimpton, qui a commencé son aventure avec le centre comme monitrice du camp d'été, fraîchement diplômée en psychologie. Elle va nous raconter un peu son parcours pour finalement embrasser beaucoup plus large et assurer des fonctions de gestion. Bonjour, Sarah.
Bonjour, Madame Doré. Merci de me recevoir.
Oui, avec plaisir. Je lisais un petit peu le récit de votre progression là, à titre de présidente directrice générale et vous disiez au départ là, que vous n'étiez pas la meilleure filoupette. De quoi on parle?
Oui, ben oui, dans le fond, c'est une belle histoire. Comme vous disiez, j'ai commencé à titre de monitrice de camp d'été. J'avais à peine 24 ans, je venais juste de graduer à l'université en psychologie et je connaissais pas du tout le Centre Filou. Mmh. En fait, j'avais envie de découvrir une nouvelle clientèle pour voir ce qui m'intéressait justement dans la vie. Et je suis tombée sur le Centre Filou, une clientèle d'enfants lourdement handicapés. Je me suis dit, pourquoi pas, un camp d'été, ça dure 2 mois, ça va être une belle expérience. Et finalement, 10 ans plus tard, je suis encore là. Pour répondre à votre question, le mot filoupette, c'est le petit mot qu'on attribue aux employés du Centre Filou. Quand je dis que j'étais pas la meilleure, c'est que je faisais mon travail, mais que c'est vraiment pas un travail facile de s'occuper des jeunes polyhandicapés. Ça prend toutes sortes de belles qualités. Et je me retrouvais là-dedans comme quelqu'un qui aimait beaucoup la cause, qui aimait beaucoup répondre aux besoins de ces familles-là, mais qu'en fait... mes aptitudes étaient ailleurs. Donc, mes forces se trouvent plus en gestion. Donc, par mon cheminement professionnel, ben finalement, c'est le meilleur des deux mondes. J'arrive à occuper un poste en gestion pour une cause que j'aime vraiment beaucoup.
Je comprends que c'est la rencontre d'un donateur en compagnie de Diane Chenevert, là, qui est la maman de Philippe, donc Philou, qui a été un petit peu le déclic pour vous là, de ce talent-là qui n'attendait qu'à fleurir.
Oui, ben c'est que en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on en parle plus souvent de ces options de carrière-là aux jeunes, tu sais, disons au cégep ou même au secondaire. C'était pas connu. En tout cas, moi, je savais pas que ça existait d'occuper un poste en gestion dans un organisme communautaire. Puis justement, c'est lorsque j'ai accompagné Mme Chenevert chez un donateur, puis que j'ai regardé comment elle s'exprimait, elle parlait de la cause. Puis je me suis dit, ah tiens, c'est ça que j'aimerais faire dans la vie, justement. Donc je trouve que c'est important de faire valoriser, de faire valoir, excusez-moi, le milieu communautaire auprès des jeunes, comme quoi c'est vraiment ça peut être un vrai choix de carrière, en fait.
Mais pour vous, ça a été une rencontre qui vous a emmené ailleurs que le choix de carrière que vous aviez fait au départ. Mais en même temps, j'imagine que les notions de psychologie vous sont très utiles dans vos fonctions.
Oui, non, c'est vrai, hein, ça fait dévier un peu, c'était pas en ligne droite, mais effectivement, des notions de psychologie, c'est jamais perdu, je pense, à mon avis. Puis, en fait, en gestion, ben très souvent, ce qui occupe la grande partie de nos journées, c'est des relations humaines. Donc, la gestion d'équipe, l'accompagnement, le développement de compétences. C'est sûr que tout mon bagage en psychologie, je suis à même de le mettre à profit là, dans mes fonctions à la direction du Centre Philou, ça c'est certain.
Et je comprends un peu que Diane, vous a, quand elle a vu là, ce talent-là chez vous, vous a vraiment mis la table là, pour occuper, vous préparer à occuper les fonctions que vous occupez maintenant.
Oui, bien, je crois aussi que des fois, on arrive à la bonne place au bon moment. Il faut saisir l'opportunité parce qu'en fait, dans l'histoire du Centre Philou, je suis arrivée à un moment clé où Diane, étant une entrepreneure, une fondatrice, une visionnaire, faisait tout par elle-même. Elle n'avait pas encore vraiment d'équipe à part les Philippettes qui travaillaient sur le terrain, mais tu sais, quand on parle d'une équipe administrative qui va faire en sorte que ta vision puis tes projets, ben, tu vas être en mesure de les amener plus loin, ben, elle n'avait pas encore mis sur pied cette équipe-là. Donc, c'est là que moi, je lui ai dit, j'aime beaucoup la cause, mais je peux pas travailler directement auprès des enfants. C'est pas là qu'elle est ma force. Puis elle s'est dit, ah, tiens, ben cette jeune-là, je vais la prendre sous mon aile. Puis, mon premier rôle, ça a été chargée des communications et des événements bénéfices. Elle s'est dit, elle-même étant, par le passé, directrice des communications en entreprise privée, avant même d'avoir le Centre Philou, elle s'est dit, tiens, je vais pouvoir coacher cette jeune-là. Puis, évidemment, par la suite, moi, je suis allée chercher des notions à l'université dans ces domaines-là, mais quand même, elle a joué un peu le rôle de mentor dans ma vie.
Et là, je comprends qu'il y a eu une évolution de la structure pour créer vraiment une fondation dédié au Centre Philou. C'est le poste que Diane occupe maintenant?
Oui, ben tout récemment, en fait, Diane va tranquillement prendre sa retraite, tout doucement. Donc, tout récemment, on a une nouvelle collègue à la Fondation Philou. Elle s'appelle Stéphanie. Donc oui, il y a deux entités qui travaillent en collaboration très étroitement, le Centre Philou et la Fondation Philou. La Fondation est plus jeune, effectivement. Il me semble que c'est 2015, l'année de la Fondation, ce qui permet vraiment de séparer les activités de collecte de fonds et de relations donateurs, puis de veiller justement à assurer une pérennité pour tous les projets que le Centre Philou a pour le futur.
Vous êtes maintenant rendu à combien d'employés?
Ben, c'est quand même devenu une petite moyenne entreprise. Je dirais qu'à chaque semaine, comme on a des services ouverts 24 heures sur 24, donc jour, soir, nuit, ça fait beaucoup de monde. En tout et partout, il y a environ une centaine de personnes qui vont passer la porte du Centre Philou par semaine. Donc, ça fait beaucoup de monde, mais c'est nécessaire parce que justement, oui, on a du répit. Ça, c'est le service pour lequel on a été connus à la base. C'est encore notre volet principal, mais on a aussi une école pour les jeunes polyhandicapés qui ont atteint l'âge de 21 ans et plus. Et on a aussi, depuis 2 ans, mis sur pied une garderie spécialisée. Donc, ça fait différentes personnes qui viennent travailler au Centre Filou là, à chaque semaine.
Oui, on va parler après la pause plus largement de ces différents services-là, mais pour compléter un petit peu sur votre parcours, là, j'entends que Diane prend sa retraite bientôt, mais j'imagine qu'elle ne peut prendre sa retraite en tant que maman de Filou.
Non, c'est effectivement, on prend jamais notre retraite de rôle de mère, mais d'autant plus de fondatrice, ce chapeau-là va toujours lui appartenir. Jamais personne qui va pouvoir lui enlever ça. Puis en fait, c'est vraiment une douce retraite, mais elle n'est jamais bien loin. Elle va rester de toute façon administratrice sur le conseil d'administration. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est la fondatrice. Donc sa vision est toujours la bienvenue quand même pour nous.
Je préparais mon émission il y a quelques jours et j'ai mon fils de 20 ans qui repartait chez son père. J'avais un petit peu le cœur gros, puis je me disais, je lui parlais un peu de notre rencontre et je me disais en même temps, je suis contente de savoir que tu es en santé, tu prends ton envol, tu as pu te développer en santé, mais qu'une maman comme ça, un papa, de devoir jouer un rôle de parent qui est finalement un jeune enfant, même parfois un bébé, même s'il a un âge beaucoup plus vieux, c'est vraiment un engagement à vie.
Oui, c'est vraiment une très, très grande réalité que ces familles-là vivent. Puis effectivement, l'enfant qui est rendu à l'âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans et plus, ben lui, c'est comme un enfant dans un corps d'adulte, finalement. Puis le parent, lui, ben il est vieillissant aussi. Hein, donc, ouais. C'est difficile de prendre soin tous les jours avec tous les soins qui viennent avec ça. On parle d'hygiène, d'alimentation, changement de couche, et les activités et la médicamentation, c'est sûr que les parents sont habitués finalement là, après une vingtaine d'années, mais quand même, c'est un quotidien qui perdure dans le temps que quand on a un enfant neurotypique, ben c'est complètement différent.
C'est une période de notre vie qu'on sait que c'est une période et qu'ensuite il y a différentes étapes. Là, on sait que c'est un contrat pour cette étape-là, pour le reste de notre vie, de sa vie.
Oui, effectivement. Donc, c'est une retraite, mais à moitié.
Sarah, on prend une courte pause et on va élaborer un petit peu sur les différents services du Centre Filou tout juste après. De retour au Héros Anonymes, nous sommes avec Sarah Kimpton, présidente-directrice générale du Centre Filou, qui s'est fait connaître pour ses jours de répit, mais qui, au fil du temps, puis je trouvais ça drôle sur votre site Internet, on dit au fil du temps, PHIL, pour parler de fil. Donc, vous êtes fait connaître pour tous ces... pour de nombreux autres services que je crois vous êtes probablement un des seuls centres reconnus par l'Office des personnes handicapées là, à avoir développé autant de branches différentes.
OK, oui, ben ça se peut en fait. Mais oui, on aime beaucoup les jeux de mots aussi. on s'amuse avec ça. Ça se peut, oui, qu'on soit un de ces sept organismes-là. Mais oui, en fait, ça a toujours été dans l'optique de un peu couvrir la trajectoire de vie du jeune polyhandicapé, de combler les vides de service, mais de ne pas dupliquer ce qui existe déjà ou ce qui est offert justement par le système public. Donc, à la base, justement, c'était ça, la mission première du répit. Ça n'existait pas, ou en tout cas, très peu, au moment où Diane a fondé le centre. On parle de répit, justement, bon, c'est à l'année, mais c'est certain que ce qui est plus populaire, c'est la fin de semaine où les gens veulent vraiment profiter. Nous, c'est vraiment important pour nous. On dit que du répit, c'est un répit qui contient une nuitée minimalement. On ne fait pas de répit de jour. Donc, c'est comme un petit hôtel, le Centre-Philo, vraiment adapté pour ces jeunes-là polyhandicapés avec des salles sensorielles, une cour arrière avec des jeux d'eau. Disons, tout là est vraiment adapté pour ces jeunes-là durant leur séjour, comme si vous et moi, on allait justement à l'hôtel se reposer.
Vous parliez de parcours il y a quelques instants et j'avais entendu là, Diane au micro de Benoît Dutrisac dans le temps parler un cri du cœur un peu de dire ben, à partir de 21 ans, la seule option, c'est d'envoyer nos enfants en CHSLD, ça fait aucun sens. Je pense que ça a été un cri du cœur qui a été porteur et qui a amené justement à mettre de l'avant de nouveaux services pour ces jeunes adultes-là, mais qui sont encore toujours des enfants, mais des adultes qui ne peuvent plus être accueillis par le système rendu à 21 ans.
Oui, ben c'est entre autres qui a motivé là, à mettre en place l'école Philo, donc pour les 21 à 29 ans, parce qu'on sait que l'école régulière pour les jeunes polyhandicapés, ça s'arrête à 21 ans. Donc après, ben, ils ont comme plus rien. Puis les parents ne sont pas nécessairement rendus à l'âge de prendre leur retraite, donc veulent continuer d'être sur le marché du travail. Donc nous, on s'est dit, ben pourquoi pas continuer les apprentissages, faire un maintien des acquis, puis en plus, on ajoute un volet avec des professionnels physio, ergo, dans notre programme école où c'est pour les 21 à 29 ans, par contre. Donc, on se retrouve quand même avec 9 ans avec un autre, face à un autre grand vide. Mais bon, on y va une étape à la fois. Ceci dit, on travaille présentement sur un projet vraiment particulier qui, on souhaite, va voir le jour. Ce serait un hébergement pour les jeunes de 21 ans et plus, justement, pour les familles qui sont rendues à cette étape-là de leur vie, pour éviter justement le CHSLD. Parce qu'effectivement, qu'encore aujourd'hui, si la famille n'est plus en mesure, pour quelconque raison, de s'occuper de son jeune à la maison, ben, il n'y a pas d'autre endroit spécialisé puis adapté pour cette clientèle-là.
Vous avez cité 29 ans. Pourquoi on arrête à 29 ans?
C'est vraiment ici au Centre Philo une question d'espace physique, en fait, pour permettre aussi à plus de familles d'en profiter du programme. Donc, ceux qui quittent à 29 ans, ben, ça permet à d'autres de 21 ans de pouvoir rentrer dans bénéficier du programme. Mais si demain matin, on avait un autre étage au Centre Philo, ben, clairement, on pourrait avoir une troisième classe à l'école Philo. Là, il y a de la demande pour ça. Puis nous, on voit vraiment les bénéfices que ça a auprès des jeunes de continuer à être stimulés et à socialiser aussi avec des jeunes comme eux.
Le projet dont vous nous parlez pour peut-être l'année prochaine ou l'autre, c'est l'Habitat Philo?
Exactement, oui. On l'appelle comme ça, c'est son petit nom, mais il n'est pas officiel dans le sens qu'on est encore au tout début des démarches, mais ça serait ça l'idée. Ça serait d'avoir un bâtiment vraiment adapté, puis avec des chambres pour des résidents qui habiteraient là. Ça serait vraiment leur maison, finalement. Ouais.
Et on indique de 20, 21 à 40 ans. C'est une question un peu particulière que je vais demander, mais quelle est l'espérance de vie de ces jeunes-là? Est-ce qu'elle est différente des enfants qui n'ont pas les mêmes handicaps?
Bien, en fait, cette information-là, elle évolue dans le temps. Ouais, maintenant, c'est plus ça qu'on dit. On dit plus jusqu'à 40 ans. On a changé. On a mis 21 ans et plus. Les critères d'exclusion de l'Habitat Philo seront autres que l'âge. On n'a pas défini encore. Comme je vous dis, on est encore au tout début. Mais ça sera pas l'âge parce qu'en fait, on réalise que c'est l'habitat de la personne. On peut pas juste la sortir de chez elle après un certain âge. Ça fait aucun sens.
Ouais.
Donc, oui, après, par rapport à votre question sur l'espérance de vie, c'est difficile à dire. Ce qu'on observe, par contre, c'est un alourdissement puis un agrandissement de cette population-là de jeunes polyhandicapés, mais on n'a pas l'explication exacte. Par contre, on remarque qu'ils vivent plus longtemps. qu'auparavant, et c'est comme si la société n'avait pas suivi le bateau. Donc, c'est là que c'est pour ça qu'on fait face à des vides de service, puis que nous, ben, on s'est donné pour mission justement d'aller combler ces vides-là. Vous me direz qu'avec une maison, avec quelques chambres, on ne fera pas nécessairement la différence à travers le Québec, mais il faut bien commencer quelque part, puis pourquoi pas après, si ça peut être reproduit, ça serait merveilleux.
Donc, vous dites que cette clientèle-là est en augmentation. Il y a plus de bébés qui naissent avec des handicaps? Est-ce que c'est ce que je comprends?
J'ai pas là, le chiffre exact ou la raison exacte, mais oui, quand on consulte les gens du domaine médical qui naviguent autour du Sentier-Loup, nous disent que effectivement les naissances, disons, prématurées ou d'enfants avec des conditions particulières, ben maintenant, avec les technologies, les avancées de la médecine, ben on les maintient en vie, on réussit à les sauver finalement, qui auparavant, on n'aurait peut-être pas réussi. Donc, ça pourrait venir expliquer en partie l'augmentation de cette population-là aujourd'hui, oui.
J'imagine que c'est des dilemmes qui ne sont pas évidents pour les parents lorsqu'ils reçoivent un tel diagnostic quand la mère est enceinte.
Non, ça doit vraiment pas être évident. Je pense que dans le milieu médical, ils ont vraiment des bons spécialistes, ils sont bien accompagnés là-dedans. Mais nous, de notre côté, au Sentier-Loup, on a même mis en place une personne qui s'occupe vraiment de l'expérience famille, donc justement de l'accompagnement des familles, parce qu'on ne les accueille pas dès la naissance là, nécessairement, mais déjà quand même, avec notre garderie qu'on a mis en place l'an dernier, on accueille des familles dont l'enfant est très jeune. Donc, c'est important de pouvoir les accompagner là-dedans dans les différentes étapes. Du deuil, parce qu'en fait, le deuil de l'enfant normal, si on veut, c'est pas juste à la naissance, ça, c'est plusieurs petites étapes au cours de la vie. Oui.
Quelle différence il y a entre les séjours de répit et la garderie spécialisée? C'est pour pouvoir offrir des répits plus courts ou à des clientèles plus jeunes?
Non, c'est complètement différent.
Ah, d'accord.
C'est vraiment un milieu de garde. C'est qu'en fait, ces enfants-là qui présentent des soins complexes ou des retards globaux de développement ne peuvent pas nécessairement aller dans une garderie régulière. Donc, les parents qui souhaitent continuer à travailler, justement, nous, on offre des ratios vraiment... un meilleur encadrement avec des éducatrices spécialisées, avec une physiothérapeute, une ergothérapeute. Donc, ces enfants-là sont vraiment encadrés, suivis, soutenus pour répondre à leurs besoins bien spécifiques là, durant leur journée à la garderie, ce qu'il n'y aurait pas dans un milieu de garde régulier, en fait.
D'accord. Et comment vos services sont financés?
Nos services sont financés...
Parce qu'on parlait de la fondation, là, donc vous êtes donné un véhicule un peu pour mieux encadrer le financement, mais principalement un peu, ça se compose de quel type de financement?
Bien, depuis plusieurs années, vraiment, on est chanceux de pouvoir compter sur l'entreprise privée. C'est ça qui a été le moteur du Sentier-Loup pendant plusieurs années, qui continue de l'être. C'est sûr que là, au fil des ans, comme vous disiez au début de l'émission, bientôt, on va avoir 20 ans. On va souligner notre 20e anniversaire l'an prochain. Donc, le gouvernement a quand même suivi. On est financé en partie par le gouvernement provincial, en partie par la Fondation Filou, qui sont des entreprises privées, des donateurs, des particuliers. Et aussi, il ne faut pas oublier la contribution des parents quand même. C'est très abordable, les services qu'on offre, mais quand même, les parents contribuent aussi à nos services.
Et je disais un peu que l'argent un peu qui est mis pour une famille d'accueil versus une famille naturelle, il y a des disparités à ce niveau-là quand même importantes.
Oui, je m'y connais pas super bien sur ce dossier-là, mais effectivement qu'il y a des disparités qui ont été soulevées là dans différents articles dans les médias à cet effet-là. Mais oui, je pourrais pas vous en dire davantage par rapport à ce sujet-là, non.
À ce moment-là, je vais vous faire parler de vous dites, on aime les jeux de mots, la philosophie.
Oui.
Comment vous l'avez articulée?
Ben, notre philosophie, justement, c'est d'avoir du plaisir. Parce que c'est une dure réalité, on le dit, autant pour les familles, au quotidien, ben, pour le jeune aussi. Puis, ben, nous, on se dit, quand l'enfant il vient au centre Filou, ben, tout tourne autour de lui, ses intérêts, ses besoins. On fait tout pour son bonheur, finalement. Donc, que ça soit, on prend vraiment le temps là, de décrire c'est quoi les intérêts de chaque jeune, puis d'essayer d'adapter nos activités en fonction, que ça soit un peu individuel, malgré qu'ils sont en groupe ensemble. Mm-hmm. Mais on prône vraiment le plaisir d'être ensemble, puis de socialiser avec leurs amis, que ce soit dans des activités d'art plastique, de musique, ou la salle de relaxation, en tout cas, toutes sortes de salles qu'on peut avoir ici. Là, on a du yoga adapté même, qu'on a développé. Fait que c'est vraiment une approche toujours centrée sur le potentiel des jeunes polyhandicapés. On voit, on est vraiment dans le positif.
Puis vous offrez l'accompagnement familial. Je disais que c'est l'impact, là, en plus de tout ce qu'on a raconté, l'engagement extraordinaire et très prenant des parents, ça a des impacts sur les frères et sœurs aussi qui sont un peu à gérer.
Oui, bien c'est ça. On en voit souvent les familles dont le jeune vient ici au Centre-Filou qui ont 2 ou 3 enfants. Donc, c'est important aussi quand le jeune vient au Centre-Filou, ça laisse du temps à la famille pour s'occuper des autres enfants, si on veut, à la maison, passer du temps avec eux. Puis aussi, ben la fratrie, on veut l'accompagner là-dedans, nous autres aussi, dans son vécu auprès de son frère ou sa soeur polyhandicapé. C'est quoi avoir un frère ou une soeur polyhandicapé? Comment il vit ça? Puis si on peut mieux les soutenir là-dedans, ben c'est à ça qu'on a dédié notre collègue Sophie. C'est vraiment pour ça qu'elle est là, pour aider non seulement les parents, mais la fratrie, mais aussi tu sais, les grands-parents ou les oncles, les tantes, tous ceux qui naviguent autour du jeune.
Oui, oui. Dites-moi, Sarah, si on veut en savoir davantage sur le Centre Filou, l'adresse de votre site Internet?
Oui, c'est le centrefilou.com et je vous invite aussi, on a des portes ouvertes le 5 avril, donc c'est très bientôt. Si jamais ça vous intéresse, on peut s'inscrire sur notre site web.
Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir reparlé de votre parcours, mais aussi de tout ce que fait le Centre Filou pour aider ces jeunes et moins jeunes à avoir plus de plaisir et à aller au fond de leur plein potentiel à eux.
Merci, Madame Doré.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.
Au revoir.